à la DILA. Donc j'ai un peu un parcours atypique, mais j'ai commencé en faisant du droit d'auteur et du droit du numérique à l'université Paris 11, donc avec le professeur Cyrinelli, pour ceux qui connaissent. Le sujet que je présente aujourd'hui, ça va être du côté de la direction de l'information légale et administrative. Le thème générique, c'est le droit et la valorisation de l'information légale et administrative en ligne. Donc complètement le cœur d'activité de la DILA aujourd'hui. La première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'information légale et administrative? Ça, quand on fait un sujet de dissertation basique, c'est on va essayer de définir un peu les termes. Alors on a un élément de réponse, c'est celui que nous, à la direction de l'information légale et administrative, on retient. C'est celui qui nous est donné dans le décret qui crée la DILA, le décret 2010-31 du 11 janvier 2010, et dans lequel sont définies les missions de la DILA. Alors, je ne vais pas dire aujourd'hui que la DILA diffuse toute l'information légale et administrative. Ce n'est pas ça. Là, j'ai l'impression que ça marche mieux, le micro. La DILA diffuse une grande partie de l'information légale et administrative, je vais y venir, mais il y a une partie aussi qui n'est pas prise en charge par la DILA. Alors, quelles sont les missions de la direction de l'information légale et administrative? Il y en a trois majeures. Je vais vous les lire. La première, c'est la diffusion de l'ensemble des données dont la publication est obligatoire en vertu des lois et des règlements ou qui nécessitent des garanties particulières de fiabilité. Donc là, ça va être tout l'aspect légal. C'est la norme juridique. La DILA assure aussi la conception et le fonctionnement de services d'information utilisant différents supports qui permettent aux citoyens de connaître leurs droits et obligations et facilite leur démarche. Elle met à la disposition du public un service de renseignement téléphonique. Là, on bascule davantage dans l'information administrative. Pareil pour la dernière mission, la DILA favorise l'accès des citoyens à la vie publique et au débat public par l'édition et la diffusion de la publication, mais là, on est essentiellement sur le support papier, et donc pas l'information en ligne, bien qu'il y a une diffusion aussi de ces éléments sur nos sites. À la lumière de ces missions, on peut donc considérer que l'information légale concerne toute l'information liée à la norme juridique, mais aussi aux annonces légales, économiques et financières. Je vais le détailler ensuite par rapport à nos missions. Le premier vrai sujet qui nous concerne en tant que diffusion de l'information légale, c'est le journal officiel. Donc, c'est la parution de tous les décrets et les lois. Le journal officiel est aujourd'hui aussi en version électronique authentifiée, c'est-à-dire qu'il a une vraie valeur juridique par rapport à la version papier. Donc, conformément à une ordonnance qui date du 20 février 2004. On retrouve aussi parmi nos missions pour la diffusion légale le site que vous connaissez, enfin que tout juriste connaît, je pense, et que tout administré aussi qui recherche un peu l'information légale, qui est Légifrance. C'est le site majeur de la diffusion légale à la DILA et qui a été créé par le décret du 7 août 2002. Il permet notamment un accès gratuit aux décrets, aux lois, aux arrêts de la Cour de cassation, aux arrêts des cours d'appel, à la jurisprudence du Conseil d'État. Nous publions aussi le bulletin officiel des annonces des conventions collectives. Le bulletin de la Cour de cassation, dans la partie plutôt économique, mais à fonction légale aussi, puisque c'est une mission qui nous est donnée. Là aussi, par décret, nous avons le bulletin officiel des annonces des marchés publics, puisque le code des marchés publics impose à un certain seuil l'obligation de passer par le BOMP. Donc là, nous avons une version papier et une version électronique. Le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, donc qui est le BODAC. Le bulletin des annonces légales obligatoires. Et le journal des associations. Voilà, ça c'est un panorama un peu exhaustif de l'information légale qu'on diffuse en ligne. À cette information légale se rajoute l'information administrative, donc comme j'en ai parlé au tout début de cette introduction. L'information administrative, par rapport à la mission de la DILA, on peut estimer que ça concerne toute l'information liée à la vie publique, aux droits et obligations des citoyens et aux démarches administratives. on va retrouver sur cette information administrative notre site qui était anciennement tenu par la documentation française avant de fusionner avec le journal officiel pour donner la DILA, qui est servicepublic.fr. On a aussi une activité de renseignement des usagers avec Allo Service Public 3939, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail de ce service puisqu'on n'est pas dans la formation légale administrative en ligne qui est le thème de mon intervention. Mais s'il y a des questions, on peut y répondre. Mais... Je disais au début donc que la DILA diffuse l'information légale administrative. J'ai pris pour définir l'information légale administrative notre décret parce que c'est pour des raisons de simplicité. Mais comme je disais, l'information légale administrative n'est pas fournie intégralement par la DILA. Il y a aussi des informations légales administratives qui sont diffusées sur d'autres sites de l'État. Et il faut aussi savoir que toutes les normes locales ne sont pas diffusées sur le site de Légifrance. D'ailleurs, se pose à ce sujet, il y a une vraie réflexion à ce sujet à terme. Il peut y avoir débat d'imaginer à terme un portail de l'information légale locale, puisque aujourd'hui il n'y a pas de portail qui référence ce type d'information. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi dans l'information légale, il faut savoir se mettre à la place de l'administré. L'administré, pour lui, l'administration, il ne sait pas bien distinguer parfois les bons points d'entrée. Donc pour l'administré, il faut vraiment se positionner par rapport à lui. Et un portail de la norme locale permettrait de simplifier ces démarches. C'est une réflexion à mener. C'est pas un projet de la DILA, mais c'est une réflexion qu'on peut avoir. Alors, la question aujourd'hui va se poser de savoir comment valoriser les informations légales et administratives et quelles sont les problématiques juridiques qu'on peut rencontrer dans cette démarche. C'est le sujet un peu de la présentation que je fais. Je vais me positionner par rapport à la DILA et vous présenter un peu les problématiques que l'on peut avoir, mais des problématiques qu'on peut retrouver aussi sur d'autres types d'informations légales et administratives dans d'autres ministères. Et des problématiques juridiques essentiellement pour lesquelles on a trouvé des réponses et parfois on est encore en train de chercher. Je vais diviser cette intervention en trois parties, tourner toujours autour de la valorisation. Il y a trois façons de valoriser, en tout cas selon moi. Il y a la valorisation de l'information au niveau de sa qualité, donc on va parler de fond, mais aussi de forme, de contenu et de contenant. Il y a la valorisation de l'information par sa rediffusion, donc on va donner une valeur à l'information dans les conditions dans lesquelles on va permettre sa rediffusion, ça sera le deuxième point. Et un troisième point qui est aussi assez important pour nous et pour lequel on a de plus en plus de difficultés, c'est la valorisation de l'information en ligne par sa protection. Il s'avère aujourd'hui que de plus en plus nos sites, nos marques, nos noms de domaine sont cybersquattés, attaqués, détournés. Et derrière ça, il y a une volonté, en tout cas la DILA, d'avoir une démarche de protection juridique de notre patrimoine immatériel qui constitue aussi les marques, mais qui permet en même temps de valoriser l'information. Je vais expliquer pourquoi. La valorisation de l'info, l'information légale administrative, quant à sa qualité. Donc, à la DILA, on a la vocation à gérer à la fois le fond et la forme de notre information. Alors, le fond, on ne va pas reprendre le texte en intégralité, ça, c'est pas notre métier. De toute façon, c'est pas nous de le faire. Le fond, en fait, c'est surtout comment on va enrichir le texte, comment on va enrichir le texte et le mettre à disposition des administrés. On a la volonté d'apporter une réelle plus-value à l'information et non pas la présenter de façon brute et complètement désordonnée. On a un bon exemple à la DILA sur ce traitement de l'information et de sa qualité au niveau du fond, c'est Légifrance et la consolidation des textes de Légifrance. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça marche, Légifrance, en fait, vous n'avez pas le texte. Donc le but de Légifrance, c'est de ramener sur notre site tout ce qui est décret, loi, règlement. Mais on ne se contente pas de les publier. On va aussi faire une véritable consolidation en mettant à jour régulièrement les textes qui vont être mis en ligne sur le site. Donc là, il y a une vraie plus-value. Et en même temps, par rapport à ça, on va quand même permettre aux utilisateurs de consulter le fichier source. Donc ce qui fait qu'ils vont pouvoir avoir la vision juridique au moment où ils consultent l'information, mais aussi pour, notamment pour les juristes, pour les étudiants qui font un travail d'études, on va leur permettre aussi d'aller vérifier l'information telle qu'elle existait au moment de la première sortie du texte, donc avant le travail de consolidation. Et ce travail de consolidation, c'est un vrai enrichissement, et c'est dans 90% des cas, ce travail de consolidation est fait dans la journée de sortie du texte. Voilà, donc il y a une équipe à la DILA, réactive, qui dans la première journée de sortie du texte va consolider tous les textes. Voilà. Donc des fois ça prend un peu plus de temps, ça dépend, et c'est très enrichissant. Il y a beaucoup de textes. Quand vous allez sur le site, vous verrez que vous avez par exemple un article du Code général des impôts où vous allez avoir juste avant la description de l'article et le contenu, vous allez avoir une dizaine de lignes de textes qui l'ont modifié, et vous avez retranscrit toute la chronologie des modifications, et vous allez pouvoir revenir au fichier source pour voir le premier texte. C'est très intéressant pour un juriste, ça lui permet de comprendre aussi l'évolution du texte qu'il étudie. Ça, c'est pour la partie donc amélioration de la qualité de l'information. Il y a une autre partie très importante sur le contenu. Pour nous, en tout cas, et ça pose des problématiques juridiques, il est important pour nous, même avant de rediffuser ou avant de proposer un contenu sur nos sites, de s'assurer, derrière ce contenu, que juridiquement, on est en phase. C'est-à-dire, il y a deux problématiques majeures qu'on rencontre assez souvent et sur lesquelles on est sollicité, notamment la première. On en a parlé tout à l'heure, ça concerne les données personnelles. Donc les données personnelles, c'est un gros sujet pour nous, puisque aujourd'hui, notamment sur Légifrance, mais aussi sur d'autres données administratives qu'on diffuse, il y a cette question qui se pose, et sur Légifrance, avec un point particulier, c'est qu'on a le JO authentifié en ligne, donc il y a une valeur juridique, une vraie valeur juridique, dans laquelle figurent des données personnelles, des décrets de nomination notamment. On a déjà été consulté, on nous a demandé de supprimer les données personnelles relatives à des nominations de personnes, voilà, donc qui ne voulaient plus voir leur nom apparaître dans le journal officiel. Donc ils invoquaient en cela la loi Informatique et Liberté, la loi CADA, enfin toute la batterie qu'il fallait. Nous, la difficulté par rapport à ça, c'était qu'on a un journal officiel authentifié en ligne, et la difficulté, pour l'instant pour laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est de... à partir du moment où on supprime cette donnée, le journal officiel, il est plus vraiment officiel, puisque il ne correspond plus à l'état du droit au moment où ce décret est sorti, le décret de nomination. Donc ça, c'est une vraie difficulté qu'on n'a pas encore tranchée, mais qui revient assez souvent. Cela étant, sur les données personnelles, on a quand même une politique à la DILA, notamment sur tous les arrêts de cour de cassation et de cours d'appel, où on a déjà un service qui s'occupe d'anonymiser directement les données personnelles. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on prend en charge, puisque de toute façon on est parti sur ce principe là puisque on est obligé de le faire, ou alors demander l'autorisation à tout le monde, mais c'est un chantier énorme qu'on ne peut pas assumer. Donc ça, le premier problème, c'est les données personnelles qu'il faut traiter. Le deuxième sujet, ça concerne la propriété intellectuelle et plus précisément le droit d'auteur, puisqu'il y a certaines données, alors pas sur les données légales, puisque les données légales, les lois ne sont pas, il n'y a pas de droit d'auteur dessus, mais on a des données administratives, des informations administratives, donc sur toute la partie servicepublic.fr notamment, sur des fiches, vos droits et démarches, où il peut y avoir du droit d'auteur. Alors c'est discutable, hein, on peut... Il y a tout un raisonnement juridique à avoir autour du droit d'auteur sur ce sujet-là. Mais c'est un vrai problème qui se pose. Et le corollaire par rapport à la DILA, ça va être toutes les créations de fonctionnaires. Toutes les créations de fonctionnaires. On a aujourd'hui une disposition juridique qui date de 2006, donc sur la création de fonctionnaires qui reconnaît la portée juridique, une certaine portée juridique à cette création. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est qu'il n'y a pas encore le décret d'application, notamment sur la partie rémunération. Et ça, ça pose une difficulté. Ça peut poser une difficulté en interne sur sur l'information légale. Donc pour l'instant, on n'a pas encore cette difficulté trop prononcée. Donc, lorsque l'on traite l'information légale administrative, on a ces deux problématiques juridiques en tête afin de proposer une information légale et administrative sécurisée et fiable. Le deuxième point sur la qualité de l'information, c'est quant à sa forme. Alors, la forme de l'information, il est préférable que cette information soit accessible, évidemment. Il n'y a pas vraiment de disposition juridique qui nous oblige à adopter un format particulier. Cela étant, on l'a entendu ce matin de la part de Monsieur Berthaud, une information que l'on diffuse en format PDF, c'est pas une information forcément exploitable. Donc, il y a une recherche, notamment sur neurodiffuseurs, d'avoir une information exploitable, parce qu'il y a un coût derrière de retraitement. Donc il faut que le format puisse être accessible non seulement à l'usager, mais aussi aux rediffuseurs potentiels et à nos licenciés. Aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu malade, donc je vais essayer de faire au mieux. Aujourd'hui, ce qui est énormément recherché de la part de nos licenciés, c'est un flux XML. Alors ne me demandez pas de rentrer dans le détail du flux XML, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais en tout cas, c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise aussi, surtout pour Légifrance, puisqu'on a cette particularité à Légifrance d'utiliser un double flux XML. Le premier va vers notre site Légifrance, c'est celui qu'on utilise. Le second va vers nos licenciés, ce qui veut dire qu'en termes de format de l'information, on est quasiment sur le même pied d'égalité avec nos rediffuseurs. Et c'est un vrai avantage pour eux. En tout cas, ils ont le même format d'information que nous. Donc là aussi, sur la forme, il y a un effort à faire, même si on n'est pas encadré juridiquement, et on essaie de le faire. La forme se traduit aussi par l'accompagnement. Ce que recherchent nos licenciés aussi aujourd'hui, c'est une outline pour expliquer le fonctionnement de nos licences, et c'est ce qu'on leur met aussi à disposition. Ça, c'est pour la partie valorisation de l'information par sa qualité au niveau de la forme et du fond. Je vais passer maintenant à la valorisation de l'information par rapport à sa rediffusion. Et quand on parle de rediffusion, on parle nécessairement de licence. Le principe des licences, c'est très important pour nous, puisque c'est ce qui va encadrer juridiquement la rediffusion de l'information. Et ça va sécuriser l'information. Alors ça sécurise aussi la personne publique qui met à disposition ces données, mais ça a aussi une valeur bénéfique pour l'information et ça va la valoriser. Le principe de la licence, c'est que cette licence, aujourd'hui on le sait, depuis 2011, les données publiques, les licences sont... le principe, c'est la gratuité, avec des exceptions qui ont été expliquées un peu tout à l'heure déjà, sur lesquelles je ne reviens pas. Et aujourd'hui, à la DILA, on a les deux. On a les deux stratégies. On a une stratégie de licence payante qui en fait concerne tout notre fonds qu'on mettait déjà sous licence avant 2011. Et on a aussi pour les nouvelles données, on a une stratégie gratuite puisque là on les met à disposition sur data.gouv.fr. Donc, du moins on commence à les mettre à disposition puisque toutes n'y sont pas. Cette licence, donc tout à l'heure ça a été bien exposé, hein, le principe de la licence, donc c'est pour ça que je reviens pas dessus, mais le but de cette licence, c'est vraiment de préciser les conditions d'utilisation de nos données. L'intérêt, c'est de la protéger, puisqu'on va, dans ces licences, interdire le détournement de données, l'altération de la donnée, on va demander de l'indication de la source, on va définir les responsabilités du licencié. Donc là, l'intérêt pour la donnée, elle est dans cette licence, et on va aussi assurer la traçabilité de l'information, on en a aussi un petit peu parlé tout à l'heure. On a deux types de licences, donc on a nous nos propres licences qui sont des licences payantes, donc pour tout ce qui est diffusion légale, donc Légifrance, le BODAC, le BOMP, avec deux stratégies un peu différentes, puisque la licence Légifrance, le prix est fixé depuis une dizaine d'années, ne bouge pas. Et la stratégie Bodac BOMP est un prix évolutif qui change dans le cadre d'un arrêté tarifaire tous les ans. La licence payante, c'est une forme de valorisation économique de l'information, puisque l'information a un coût, elle a un coût de traitement, un coût de structure, un coût de récupération, y compris pour nous, qu'on reporte sur la redevance, mais le coût de cette licence est le coût marginal aujourd'hui, elle a dit là. On a aussi à terme la volonté, mais ça c'est encore en phase de discussion, de refondre un peu la tarification, d'en prévoir une adaptée véritablement aux besoins et à la finalité de la réutilisation, et de moderniser nos tarifications. Alors ça c'est encore à l'état de réflexion, et à partir de ce moment-là, il faudra suivre un peu la procédure qui a été mise en place depuis 2011, et notamment, on l'a aussi précisé un petit peu ce matin, le passage obligé devant le COEPIA pour expliquer la tarification des licences, puisque ces licences aujourd'hui, maintenant à partir du moment où les tarifs, on prévoit un tarif, on a un encadrement à respecter. Au niveau de la réutilisation, le deuxième point qu'on peut évoquer, c'est la valeur d'usage, et cette valeur d'usage est importante par la réutilisation efficace, effective que l'on va faire par rapport à l'information que l'on fournit. Le droit à réutilisation aujourd'hui est un droit reconnu sur lequel on ne revient pas dessus, qu'il soit commercial, que cette réutilisation soit commerciale ou non. Et pour nous, cette réutilisation se développe donc à partir de l'information publique que l'on va donner. Et cette information va être valorisée par les services qui vont découler de la qualité de l'information que l'on fournit. On a un exemple aujourd'hui avec l'ExBase, donc qui utilise des technologies innovantes et qui reprend, qui est licencié Légifrance. Mais nous aussi, à la DILA, on a une politique de valorisation par l'usage qu'on va faire de nos informations et on va décliner la mise à disposition de l'information avec d'autres services, et notamment avec des applications mobiles de Légifrance ou du BOMP, donc qui est une application mobile très récente et qui va permettre de diffuser encore davantage notre information. Un sujet juridique très important pour nous aujourd'hui, mais là je vais un peu empiéter sur votre domaine, c'est la valorisation de l'information par sa protection. Alors, si on reste dans le cadre uniquement de l'information légale et administrative en ligne, aujourd'hui se développe de plus en plus de la cybercriminalité, du parasitisme, donc où vous avez des sociétés, des entreprises qui vont soit absorber, encapsuler votre site internet, donc récupérer toute l'information de cette manière. On a eu le cas, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, sur une application Apple Store qui encapsulait complètement Légifrance, donc sans passer par le système de la licence. Et on a aussi des cas de cybercriminalité où nos noms de domaine vont être repris, nos marques vont être reprises, vont être utilisées comme noms de domaine pour que des entreprises diffusent aussi de l'information. Et ce qui va provoquer dans l'esprit du public, parfois, ça en a le retour, une certaine confusion. Il y aura plusieurs pistes, hein, plusieurs pistes d'attaque pour contrer ce genre de phénomène. Il y a le droit des marques. Le droit des marques, puisque quand on a une marque de déposé, on s'oppose systématiquement dès qu'on voit une marque un peu similaire, on s'oppose à ce dépôt. D'ailleurs, on a eu un cas la semaine dernière qui nous a été remonté par l'APIE. Donc, grâce à l'APIE, on a eu un cas de dépôt de marque. Bon, je rentre pas dans le détail de la marque, hein, puisque c'est en cours d'instruction, enfin, c'est en cours de procédure, donc je vais pas donner l'exemple. Mais voilà, l'APIE a alerté. Nous, on a réagi, puisque ça rentre complètement dans notre démarche de protection de notre patrimoine immatériel et a fortiori de nos données légales administratives pour ne pas semer la confusion dans l'esprit des usagers. Donc, on a lancé une procédure de mise en demeure. Excusez-moi, de mise en demeure contre la personne qui a déposé une marque qui ressemble très fortement à servicepublic.fr. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail, mais déjà on connaît un petit peu. C'est le même principe quand on dépose un nom de domaine. On a eu ce cas-là l'année dernière où quelqu'un a déposé le nom de domaine bomp.com. .eu. Voilà. Donc la marque BOMP est une marque déposée depuis plus de 10 ans. Donc là aussi, on a réagi. Généralement, la réaction passe par un simple courrier de mise en demeure. Dans la plupart des cas, on obtient satisfaction. La problématique qu'on a aujourd'hui avec ces sites, avec ces noms de domaine, c'est qu'aujourd'hui, un nom de domaine peut être déposé n'importe où dans le monde. Et on a des sociétés qui déposent bomp.com, mais qui habitent, qui sont localisées aux États-Unis. Et là, on a beaucoup plus de difficultés à récupérer le nom de domaine, puisque les démarches administratives et juridiques sont beaucoup plus complexes. On a la chance quand même, sur les .fr, d'avoir une procédure. Donc nous, on utilise la procédure AFNIC, la procédure Cirelli, qui permet soit de récupérer le nom de domaine, soit de demander son annulation. Donc j'en ai fini avec la cybercriminalité. J'espère avoir été assez clair sur ce point. C'est les difficultés qu'on a aujourd'hui. On a plusieurs types de réflexions aujourd'hui. C'est un peu l'ouverture que je peux avoir. On a sur la valorisation des données publiques et des données légales et administratives. Aujourd'hui, on a sur notre site internet des éléments de publicité qui vont, puisqu'aujourd'hui la donnée légale et administrative a une valeur économique, donc ça se reflète aussi par la publicité qu'on peut utiliser sur nos sites. Et il y a une autre piste de réflexion qu'on m'avait soufflée un peu dans le labyrinthe de la DILA, qui est la valeur véritable du site en ligne. Et je vais vous donner un exemple là-dessus. C'est un élément de réflexion qui vaut ce qu'il vaut, mais aujourd'hui, Légifrance, par exemple, c'est 70 millions de visites en 2011. C'est à peu près 8 minutes de temps de connexion. L'intérêt pour nous d'avoir une information légale et administrative fiable, efficace et facilement récupérable, c'est de diminuer le temps de recherche. Si on regarde, si on fait un calcul rapide et un peu farfelu, beaucoup d'avocats, beaucoup de juristes vont consulter Légifrance pour rechercher une information. Il y a un coût horaire de l'avocat, ça c'est pas un mystère. Ce coût horaire, si on le multiplie, si on le ramène à la minute, si on le multiplie par le nombre de minutes qui passent sur Légifrance et par le nombre de millions de connexions qu'on a, on dépasse facilement les 100, 200, 300 millions d'euros. Il y a un vrai chiffre d'ailleurs. Alors, on n'a pas réfléchi sur la portée réelle de ça, mais je pense qu'il y a une réflexion intéressante à avoir sur le coût. Sur cette valeur économique qui est un peu aujourd'hui, qui n'est pas vraiment étudiée, mais qui a peut-être un intérêt, du moins à étudier, dans un avenir lointain ou proche, ça c'est à voir. Voilà ce que je pouvais dire sur l'information légale administrative en ligne.
Merci beaucoup, monsieur. Bon, j'ai beaucoup.